Seigneur, nous te donnons ce matin, en te donnant ces deux sessions. Or, c'est à cause de toi que nous sommes ici. C'est toi qui nous paie. Or, qui nous a rassemblés aujourd'hui. Alors, nous nous réunissons dans ton nom. Or, dans ta personne si douce. Oh Seigneur, nous allons demeurer ici, demeurer en toi. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses demeurer en nous. Seigneur, notre prière se fait ta demeure dans nos cœurs. Fais ta demeure dans tous nos cœurs. Nous prions que tu vas gagner plus de terrain en nous, que tu vas expansionner plus d'espace dans tous nos cœurs, que tu puisses être à la maison dans l'Église, que l'Église soit ta demeure en réalité, pour que tu puisses être exprimé, pour que tu puisses être satisfait. Seigneur, lave-nous de ton sang, protège et couvre-nous dans toutes les directions. Oh, protège-nous des attaques de l'ennemi, que ce soit dans nos esprits, dans nos pensées ou même dans nos corps. Seigneur, nous sommes ici, nous t'attendons ici, Seigneur. Donne-nous une parole spécifique, particulière, pour les chères sœurs. Pas seulement pour les saints ici, mais pour tous ceux qui vont visionner la vidéo, pour ton Église, pour nourrir ton Église. En priant pour l'arrosage, pour ta sanctification, pour ton instruction, pour ton édification. Seigneur, nous prions à travers, nous prions que ces paroles vont trouver le terrain dans nos cœurs et qu'il y ait l'édification de l'Église. Oh, que toutes les sœurs puissent fonctionner, puissent te chercher et de fonctionner dans la bonne manière, selon ton ordination divine. Oh, que les églises soient bénies. Prions que ta parole nous lave nos pensées, que tu renouvelles nos concepts, délivre-nous des pensées mondaines, la philosophie mondaine de cet âge. Seigneur, nous voulons venir à ta parole. Pour recevoir la pensée de Christ, de connaître quelque chose dans ta parole, dans cette merveilleuse révélation. Toute notre confiance est en toi. Oh, que nous parlions ou que nous écoutions. Oh, nous sommes unis à toi dans un seul esprit. Alléluia! Celui qui est un esprit avec le Seigneur. Oh, qu'il ait la liberté. Qu'il y ait l'espace pour que tu puisses parler, pour que tu puisses faire tout ce que tu veux. Amen. Je pense, chère sœur, la parole est importante. Dans toutes ces paroles-là, ne pensez pas que ce sont des concepts humains ou une construction humaine par rapport aux femmes, aux sœurs. Et je vais entrer dans ces choses, ces points, et juste pour donner un avertissement, à cause de la philosophie puissante de cet âge, par rapport à cette question de l'homme et de femme. Que même vous avez déjà entendu ces choses ou vous avez été enseigné par rapport à ces choses. Et vous pouvez vous identifier dans ces choses. Mais ce que je vais vous dire, qui est selon la parole pure de Dieu, vous allez peut-être trouver un peu offensif et même difficile à recevoir. C'est pour ça, précisément, pourquoi nous devons avoir ces réunions-là, pour que nos pensées, notre intelligence soient lavées. Vous connaissez la portion dans Éphésiens 5 qui parle de le lavage dans la parole. Cette parole de laver, c'est le même mot que le bassin entre l'autel de l'Holocauste que les serviteurs devaient être lavés. C'était un type de notre baptême d'aujourd'hui, où l'ancienne création est terminée et que nous vivions dans la nouvelle création. Que notre vieil homme soit enseveli en Christ et que nous vivions en résurrection et que nous vivions dans la réalité de la résurrection qui est l'Esprit aujourd'hui. Et en faisant cela, nous allons marcher dans la nouveauté de vie. Chères sœurs, nous sommes ici pas simplement comme des personnes dans le monde qui vivent selon le standard du monde. Et selon la philosophie mondaine, et non plus une philosophie éthique ou morale. Nous sommes non plus, il y a des sœurs ici qui viennent de l'Asie, et là-bas, il y a toutes sortes d'éthiques asiatiques j'aimerais dire que c'est vraiment exemplaire, mais la source de cela, c'est Confucius. Il était un philosophe chinois, et aussi les Coréens et les Japonais. Toutes ces philosophies-là proviennent de Confucius, et ils ont été affectés par ces enseignements éthiques. Donc même, on peut dire que si vous n'êtes pas instruit, si vous n'avez pas la révélation, même ces enseignements éthiques et moraux, même ça peut être meilleur que la Bible, si vous croyez cela. J'utilise toujours cette illustration que la Bible dit que la femme devrait se soumettre à son mari. C'est l'enseignement de Paul dans Éphésiens. Mais je vous dis que Confucius est beaucoup plus haut que cela. Même avant que la femme soit mariée, tu dois te soumettre à ton père. Et après que tu es marié, c'est sûr qu'il faut se soumettre à ton mari. Mais si tu deviens veuve, tu es supposé de te soumettre à ton fils. Est-ce que tu penses que Confucius est plus haut ou la Bible? Je dirais que Confucius est plus haut, beaucoup plus haut que la Bible. Confucius parle de la soumission dans trois directions, mais la Bible dit seulement dans une direction. Mais c'est une construction humaine et éthique. Ce n'est pas une question de bon ou mauvais. C'est sans révélation. Quand vous êtes arrivé ici, je vous ai demandé de mettre de côté tous les systèmes d'enseignement de ton enfance, de ton éducation. Nous ne sommes pas dans la sphère de bon ou mauvais. Mais il faut revenir au standard d'art qui est la parole de Dieu, la révélation divine. C'est ça notre standard le plus élevé. Chères sœurs, aujourd'hui, nous devons prier. Même en écoutant mes paroles, je prie que vous n'écoutez pas simplement avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Exercez votre esprit intérieurement, parce que nous avons besoin désespérément ce genre de message. Et donc, nous avons besoin d'un autre esprit, un esprit de sagesse et de révélation. La sagesse vient de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas simplement être intellectuel. C'est la sagesse divine. Et deuxièmement, nous avons besoin de révélation, pas simplement l'enseignement. Nous allons voir des enseignements, mais l'enseignement, c'est un outil ou un moyen de transmettre la révélation. Donc, en d'autres mots, nous avons besoin d'être dévoilés. Il faut que les voiles soient ôtés ou enlevés. Donc, pour que nous puissions vraiment voir la réalité, qui est Christ lui-même. Donc, j'espère vraiment que ces réunions ne soient pas simplement dans une réalité extérieure, mais véritablement dans une réalité intérieure. Donc, ce que nous faisons ici dans les églises au Canada, spécifiquement avec les sœurs, dans les églises au Canada, en commençant par cette année, pour rattraper un peu, parce que dans les deux dernières années au Canada, beaucoup de sœurs ici, que nous avons dévoué beaucoup de temps avec les frères pour un genre de formation. Peut-être vos maris. 2 ans, c'est beaucoup, c'est long, c'est long. Je me rappelle le novembre passé, pour une autre réunion des frères, et j'ai posé la question aux frères. Nous rapprochons la fin de cette formation avec les frères. Qu'est-ce que nous allons faire? Et en union, presque unanime, ils ont déclaré les sœurs, une formation pour les sœurs. Donc, avec justice, on a besoin de cette formation des frères, pour les sœurs. Et les sœurs, les femmes, ont soutenu les frères pendant ces 2 ans et on aimerait avoir une formation pour les sœurs. Et en passant, j'ai 48 messages ou leçons pour les sœurs. Et en fait, j'ai travaillé sur ces messages pendant quelques années. Et je vous dis que dans mon cœur, j'avais toujours un fardeau pour les sœurs. Parce que, en quelque sorte, les sœurs sont plus importantes que les frères. Et je ne dis pas ça simplement pour vous élever ou que vous vous sentez bien pour que vous puissiez m'écouter aujourd'hui. Je dis cela parce que c'est un fait. C'est un fait. Notre frère Witness Lee, qui est très expérimenté dans cette question de la vie d'Église, il a dit, selon son expérience, l'édification d'une Église locale, par exemple, l'église à Toronto. 2/3 dépend des sœurs. 1/3 dépend des frères. En quelque sorte, le ratio, c'est C'est le même que la maison de Béthanie. La maison que le Seigneur a beaucoup aimé visiter. Il y avait trois frères et sœurs. Il y avait Marie, Marthe et Lazare. Celui qui est mort et qui a été ressuscité par le Seigneur. Donc, c'est 2-1. Je ne sais pas, à Toronto, c'est quoi le ratio entre frères et sœurs, mais si c'est à peu près 2-1, c'est à peu près juste. Vous pouvez dire, peut-être c'est pour ça que c'est difficile que pour les sœurs de trouver un mari, mais en tout cas, ça c'est une autre question. Mais c'est ce que le frère Lee nous a partagé. Et je crois en ça, je suis d'accord avec cela, parce que c'est mon expérience aussi. Donc, cette importance dédiée aux sœurs est traduite à un besoin. J'aimerais vous transmettre cette importance avec l'aide de ces leçons, avec 48 leçons. À cause des circonstances, nous ne pouvons pas nous réunir ici pour passer à travers les 48 leçons. Donc, nous avons décidé que nous allons couvrir deux messages. Et donc, là où je voyage, par exemple au Canada, à travers les vidéos, que ces leçons puissent être libérées partout dans les églises. Les deux premières leçons étaient au mois de janvier. Est-ce que vous les avez regardées? Oui, c'est bien. Est-ce que vous vous sentez bien par rapport à ces leçons-là jusqu'à maintenant? Si je me souviens bien, les deux premières leçons, c'était par rapport à l'importance des sœurs. Aujourd'hui, vous êtes l'audience directe pour couvrir les leçons 3 et 4. Ces deux leçons-là sont très, très importantes. Nous ne parlons pas simplement des rôles ou des fonctions des sœurs. Nous allons couvrir cela, et nous allons toujours couvrir cela, mais il faut que nous établissions un fondement, un concept de base. Par rapport à la place d'une sœur et d'un sens général, la femme, la femelle, par rapport au frère, par rapport au mâle. Et c'est une chose très importante dans la création de Dieu. À la fois à la vieille création, l'ancienne création, et aussi dans l'application et l'expérience dans la nouvelle création. C'était une grande, un long préambule, mais avant d'entrer dans la leçon elle-même, que c'est important de lire la parole de Dieu. Lire la parole, c'est aussi important que lire cette leçon. Peut-être que vous n'avez pas l'Ancien Testament avec vous, donc je vais vous lire ces versets. Et après, vous pouvez tourner à votre Nouveau Testament et vous pouvez lire. Et en passant, chère sœur, et je dis cela avec une espérance et même... Et même, je dirais, comme un devoir. Qu'après avoir écouté ces messages, que vous allez trouver le temps, personnellement ou individuellement, et encore mieux avec des compagnons, en deux ou en trois, cinq ou six, sept ou huit, par langue ou peu importe, les églises ne vont pas arranger ces choses pour vous, mais organiquement, que vous pouvez trouver, même si vous avez déjà un petit groupe, que vous allez entrer spécifiquement dans ces messages et les poursuivre. Et même, je dirais, personnellement, vous pouvez étudier ces messages-là avec l'aide de la Bible. Et avec les plans, je crois que vous avez aussi des extraits. Et ces extraits sont simplement des passages dans le ministère. Mais il y a aussi beaucoup plus de lectures dedans. Il y a des références, des questions d'études. J'ai fait presque tout pour vous. Vous avez simplement il faut simplement prendre vos ustensiles pour y manger. Je vous garantis que si vous payez le prix et vous entrez dans ces choses-là, que le bénéfice que vous allez recevoir va être beaucoup, beaucoup plus que simplement écouter un message. En écoutant un message, vous allez simplement recevoir un peu. Tu recevras peut-être seulement 20%, mais 80%, c'est à travers votre étude. 80%, c'est très, très, très important. J'aimerais voir les sœurs dans les églises qui poursuivent, qui sont intéressées, qui prennent le défi pour entrer dans la parole. Et surtout, ces leçons sont préparées uniquement pour vous. Donc, voilà, s'il y a quelque chose que vous devrez entrer dedans, c'est ici. Est-ce que vous allez entrer dans ces choses? Amen. Chères sœurs, dans la vie de l'Église, vous ne devez pas avoir des clics. D'une façon naturelle, les sœurs forment des clics. Les sœurs, ils se rassemblent ensemble parce qu'ils ont des intérêts communs et ils rentrent dans des relations naturelles. Et même pas en essayant, mais ils forment des cliques, des groupes. Ces groupes-là, ils deviennent un peu exclusifs. Et quand le quatrième vient, les trois autres arrêtent de parler. Mais ces choses-là arrivent dans l'Église. Ce n'est pas très, très bien dans la vie de l'Église, parce qu'il bâtit quelque chose qui éventuellement n'édifie pas l'Église. Vous savez ce dont je parle. De l'autre côté, nous devons nous grouper ensemble, pas simplement pour des raisons sociales, mais vraiment, réellement, pour l'Église, pour le Seigneur. Dans cette intention pure, j'aimerais vous encourager de venir ensemble, de réunir ensemble, par quartier, par quoi que ce soit. Et la prochaine réunion, je vais parler un peu de la prière des sœurs. Il y a des leçons dédiées pour cela, mais je ne pouvais pas attendre. Juste cette semaine passée, j'étais impressionné pour le besoin de la prière des sœurs. Bon, le premier devoir aujourd'hui, c'est de vous réunissez pour poursuivre ces choses. Vous pouvez commencer avec vous-même, personnellement. Juste ouvrir votre Bible et étudier ces points-là. Et vous pouvez vous réunir et vous pouvez digérer et avoir de la communion. Et chaque fois que vous allez entrer dedans, vous allez encore être impressionné. Et ces choses-là vont prendre racine. C'est très important. Bon. Et donc, je vais juste vous lire Genèse 1, 27. Et vous allez être prêts avec vos Nouveaux Testaments de lire les prochaines parties. La première partie est relativement simple. Donc, ça dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Donc, on pose la question déjà. Dieu a créé combien de personnes? Ben, un homme, mais dans le même verset, ça dit « Homme et femme, il les créa. » Donc cet homme, c'est un homme mâle et un homme femelle, en quelque sorte. Comment est-ce que ça fonctionne? Mais nous allons voir. Donc, lisons les versets dans le Nouveau Testament. Lire la Bible, c'est très, très important. Matthieu 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes? » C'est une citation de Genèse 1. Dieu créa l'homme, l'être humain. Mais la Bible dit immédiatement que dans cette création-là, Dieu a en fait créé deux. Définitivement deux. Deux êtres humains différents. Un, c'est le mâle. Et l'autre, la femelle. Déjà, en disant cela, je parle de quelque chose qui est contraire de ce qui est poussé aujourd'hui, ce qui est promu aujourd'hui dans notre société. Est-ce que vous avez déjà entendu de ce terme de la neutralité du genre? Du sexe, c'est vraiment fort et puissant qui est enseigné et poussé et même forcé dans notre société. Et surtout dans les jeunes pensées, les jeunes femmes. Pour dire en effet que les sexes sont mélangés. Il n'y a aucune différence entre mâle et femelle. Ils sont les mêmes. L'homme et femme sont les mêmes. Il y a une ville dans les États-Unis, ils ont légalisé que dans tous les documents officiels, qui vont enlever tous les pronoms masculins et féminins. Ils vont utiliser un pronom du genre neutre. Je ne sais pas si c'est lui ou elle, mais c'est un autre pronom, un autre genre. C'est un troisième genre. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un fait. Et ce n'est pas juste. Ou ce n'est pas... c'est tort. Il y a juste hommes et femmes. Il y a juste deux. Et il y a une distinction claire entre ces deux-là. J'espère, chères sœurs, que vous n'allez pas simplement écouter et immédiatement rejeter cela. Non, soyez ouverts, pas à moi, mais à la parole de Dieu. Je reviens à la parole de Dieu. Je sais qu'en parlant de ces choses, je suis dans une bataille. Je réalise cela. Mais il faut parler la vérité. Sinon, nous ne sommes pas fidèles au Seigneur. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 15. C'est bien pour nous tous. Et peut-être qu'il y a des saints qui ne sont pas familiers. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est la tête de tout homme et que l'homme est la tête de la femme. J'aimerais que nous tous, à la fin de chaque verset, nous allons dire Amen. Qui veut dire que nous sommes d'accord. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore sa tête. Amen. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte, déshonore sa tête, car c'est la même chose qu'une femme qui est rasée. Amen. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se couvre. Amen. Car l'homme ne doit pas avoir la tête couverte, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Car l'homme n'est pas issu de la femme, mais la femme de l'homme. Amen. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Amen. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de soumission à l'autorité. Amen. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Amen. Car de même que la femme est issue de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Mais toutes choses sont issues de Dieu. Amen. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu la tête découverte? Amen. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme porte de longs cheveux, c'est un déshonneur pour lui. Amen. Mais que si la femme porte des longs cheveux, c'est une gloire pour elle, parce que les longs cheveux lui ont été donnés comme couverture. Amen. Donc, ne entrez pas dans les choses physiques. Est-ce que je devrais avoir des cheveux longs ou courts? Ou est-ce que je devrais couvrir ma tête ou non? C'est pas que je diminue ces choses, mais on va reporter ces choses-là à un autre temps. Mais on veut voir la révélation qui est dans la Bible par rapport à le mâle et la femelle. Et c'est ça le sujet de cette leçon. Continuons à lire Galates. Trois versets importants dans Galates, chapitre 3. Donc, Galates 3, 26, 27 et 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Car tous ceux qui ont été baptisés dans le Christ ont revêtu Christ. Il ne peut y avoir ni juif ni grec. Il ne peut y avoir ni esclave ni libre. Il ne peut y avoir ni femme, ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Vous pouvez dire, waouh! La Bible parle contre elle-même. Vous venez de nous dire qu'il y a une distinction claire entre mâle et femelle, mais ici, Paul, tu dis que en Christ, il ne peut y avoir ni mâle ni femelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin d'un enseignement pour clarifier cette question. Et ici, il y a quelque chose de très important par rapport à la vérité. Bon. Tournons au chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, qui crie Abba Père. Vous êtes fils. Qui êtes-vous? Les frères, les mâles, les sœurs, qui sont les fils ici? Parlez à tous les croyants. Et soudainement, même juste dans les premiers versets, il dit qu'il n'y a pas ni mâle ni femelle. Et ici, il dit, vous êtes fils. Il n'a pas dit les fils et les filles. Où sont les filles? Je ne sais pas. Mais vous êtes des fils. Et Dieu a envoyé l'esprit de son fils. Je suis désolé, ça ne dit pas l'esprit de son fils et de sa fille dans nos cœurs qui crie Abba Père. Jésus est le fils de Dieu et n'est pas la fille de Dieu, le fils de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair que cela. Et aussi, ça dit Abba Père et pas Abba Mère. Mais c'est pas ce que tu aimes ou tu n'aimes pas. C'est ce que la Bible nous dit. Notre tâche, c'est simplement dire Amen. Béni soit une personne qui dit Amen à ce que dit la Bible. C'est une très grande chose d'obéir la parole de Dieu. Finalement, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Soudainement, Paul parle pas aux sœurs, mais aux saints à Corinthe. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Soudainement, nous sommes tous des femelles. Il dit même, comme des vierges à Christ, incluant les frères. C'est confondant, non? ni mâle ni femelle, mâle femelle. Les fils et les vierges. Bon. Je pense qu'on est suffisamment confondu pour qu'on puisse venir à cette leçon, pour qu'on puisse recevoir la vérité. Il faut que nous terminions à 10h30 et nous allons avoir une pause avant la deuxième session. Donc, je vous confie l'étude de ces choses à vous-même. Point Romain 1. Disons le titre ensemble. La révélation de la Bible concernant mâle et femelle dans l'économie de Dieu. Disons point Romain 1 ensemble. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, et les créa. Le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme. Dans la création de Dieu, Il le créa et il les créa. Il le créa et il les créa. Si vous voulez être plus technique et détaillé, Dieu a créé seulement Adam. Ève n'était pas créée de la même façon que Adam était créé. Il y avait une côte après que Adam s'est couché. Et avec cet os, Dieu a bâti, il n'a pas créé, mais il a bâti. Créer, ça veut dire qu'il fait quelque chose qui n'était pas en existence. Mais pour bâtir, c'est utiliser quelque chose qui a déjà été créé à quelque chose d'autre. Donc, la femme est techniquement bâtie et pas créée. Mais généralement, Dieu les a fait hommes et femmes. Donc, je vais continuer. Donc, dans la création de Dieu, il y a une distinction entre mâle et femelle. Vous pouvez dire que la moitié de ce message, c'est de mettre accent sur la distinction entre mâle et femelle. Pas seulement la distinction entre mâle et femelle, mais une différence particulière entre les deux. Dans la création, sans doute, mais aussi dans le but pour lequel ils ont été faits, mâle et femelle. Les différents rôles, les différentes fonctions, par conséquent. En conséquence de cette distinction entre mâle et femelle. Chères sœurs, j'espère que vous ne soyez pas dérangé par moi-même. Je sais que dans la vie de l'Église, nous acceptons ces choses-là et donc nous sommes corrects. Mais je vous dis que cette question-là, cette question importante-là, est en train d'être détruite dans ce monde. Et la destruction de cette idée, de ce fait, même la dilution de cette question-là, c'est une des sources de toute la dégradation et le péché de la société aujourd'hui. C'est la source. Si vous enlevez ce concept divin, si tu le mets de côté, tu te te met dans une position ouverte à Satan, au malin. Et nous le voyons dans presque chaque coin de la société. Je ne peux même pas ouvrir le journal et de ne pas voir quelque chose de sérieux. Je ne suis pas criminel, mais quelque chose de décadent, dépravé, même d'une façon extrême. Et vous pouvez retracer ces choses-là, ces pensées-là. Je peux même dire que ces concepts-là sont même sataniques. Et ils viennent de l'étang de feu. Il faut que je dise forcément, ce n'est pas dirigé à vous, mais c'est dirigé à l'ennemi. Toutes ces théories modernes par rapport au sexe, aux différentes relations, par rapport à la société, il y a un plan, un projet mauvais. De mettre les choses à l'envers. Et éventuellement, la flèche va pointer à Dieu lui-même et ce que Dieu veut accomplir sur cette terre. C'est très sérieux. Je réalise que nous sommes en train de nous engager à une bataille spirituelle. S'il vous plaît, les sœurs, priez. Et obéissez à sa parole. Je respecte les sœurs. Je ne suis pas d'accord avec le maltraitement des femmes. La Bible. Mais il faut que vous ayez la révélation. Vous ne devez pas que vous soyez impliqués dans les mouvements, les contre-mouvements dans le monde. Une chose est claire, ils ne vont pas résoudre les problèmes. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est déjà écrit dans la Bible. Il y aurait peut-être ceux qui vont abuser la parole de Dieu. Tout peut être abusé ou mal utilisé par l'homme pour les intérêts personnels. Pour des raisons égoïstes. Nous ne sommes pas pour cela. Pour oppresser les femmes, etc. Ainsi de suite. Et vous savez ce qui est dans les actualités, toutes ces choses-là. Mais chères sœurs, la meilleure chose, c'est que nous soyons tous soulevés de ces choses. Nous ne sommes pas dans cette sphère-là, que nous soyons d'accord ou pas. Il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Et de voir ce que Dieu a fait selon l'Écriture divine. Il y a une distinction. Même les mamans, vos enfants grandissent. Je sais ce que vous faites face. Oui, il faut penser à ces choses. Nous allons vous aider. Même les gens qui mettent à l'avant ces concepts mondains, eux, ils pensent qu'ils sont progressifs. C'est une bonne chose. Même une fille qui a 3 ans au Texas. Et ça se passe partout au Canada. Ce n'est pas simplement l'homme qui fait cela. J'ai donné 3 messages. Je ne sais pas si les frères ont reçu mes messages. J'ai donné trois messages sur le sujet de l'homosexualité selon la vue de la Bible. Je ne suis pas ici pour combattre. Je ne suis pas sûr quelqu'un qui est activiste pour contredire quelqu'un, quelque chose. Je suis simplement un serviteur du Seigneur et je suis un serviteur de Dieu. Si je ne suis pas fidèle à la parole de Dieu, je n'ai aucune place ici. Je vous dis que la vérité est sous l'attaque et nous sommes ici sous l'attaque. Et la force de cette attaque, c'est il n'y a aucune, il n'y a rien qui compare à aujourd'hui. Vos enfants, ils reviennent de l'école et ils disent dans les livres, et ils sont même obligatoires. On peut avoir deux mamans, deux papas, et beaucoup plus que ça. Et même ça, c'est des vieilles choses. Il y a encore pire que cela. Et leur pensée innocente, ils croient à cela parce que les professeurs disent cela. Qu'est-ce que vous allez faire? Et en tant que parents, si nous faisons rien, ben nous suivons simplement. Et ils vont croire à cela. Il faut que nous parlions. Moi, je dois parler. Je continue à lire. La création de l'homme et de la femme est différente. Et l'objectif de Dieu pour les hommes et les femmes est aussi différent. La façon que Dieu a fait l'homme et femme est différente. Biologiquement, psychologiquement. Différent. Il faut que vous acceptiez cela. Et donc, l'objectif est aussi différent. Le mal est créé pour un objectif particulier, et la femme aussi. Et les deux sont créés divinement. Et ils sont créés d'une façon merveilleuse. Dieu a créé l'homme d'une façon merveilleuse pour un objectif merveilleux. Et Dieu a créé la femme d'une façon merveilleuse pour un but et un objectif merveilleux. J'ai fait cette blague. En fait, ce n'est pas une blague. Mais même si j'ai aidé à compiler ces messages et après que j'ai relu ces leçons-là, j'étais impressionné. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu m'as pas fait une femme? J'aurais aimé que je sois une femme parce que je me rends compte que le but d'une femme ou d'une sœur, c'est merveilleux. Si vous voyez cela, vous allez vraiment chérir cette chose. Et j'espère que vous n'allez pas dire, oh, j'aurais aimé que Dieu m'a fait comme un homme. Et pour cela, je veux être un homme. Non, non. Pourquoi est-ce que vous voulez faire cela? Toutes ces leçons, ces 48 leçons, c'est pour vous informer qu'il y a un but vraiment merveilleux qui est très nécessaire dans l'économie de Dieu et dans son plan éternel. C'est merveilleux, c'est beau, c'est merveilleux, c'est glorieux. Je respecte beaucoup, beaucoup les sœurs. Pourquoi? Parce que je respecte Dieu. Et la façon dont il fait des choses, dans sa sagesse infinie. Pourquoi combattre cela? Je suis pour les droits des femmes. Oui, il y a eu une oppression, dans, en quelque sorte, dans la société. Il y a l'aspect de l'égalité. Mes chères sœurs, ce que nous témoignons, c'est beaucoup, beaucoup au-delà de cela. Ceux qui disent la quatrième vague de féminisme, je ne sais pas si vous connaissez cela, pas la première vague, ça c'est les, dans les deux derniers, deux derniers siècles. Ne pensez pas que je n'étudie pas ces choses-là. Je sais ce dont je parle. Je suis pas simplement un prêcheur dans la campagne, quelqu'un qui est dans le passé. Non, chère sœur, la Bible. Revenez à la Bible, la parole de Dieu, et soyez lavés, purifiés. Et même les frères ont besoin d'aide. Aujourd'hui, on a des frères, des hommes qui ne vivent pas comme des hommes. Continuons. L'homme fut créé par Dieu et la femme fut bâtie par Dieu. L'œuvre de Dieu qui bâtit est plus détaillée que son œuvre de création. Vous voyez, c'est un compliment merveilleux. Selon le fait, pour créer, c'est miraculeux. Dieu a simplement créé. Mais pour bâtir, le niveau de détail, c'est énorme. Donc, la femme est beaucoup plus fine, détaillée que les frères. Le B dit, l'homme en tant que celui créé par Dieu est moins raffiné que la femme et fut bâti par Dieu. La femme est beaucoup plus raffinée parce qu'elle fut bâtie par Dieu. L'homme est l'homme et la femme est femme. Pardon. Que ce soit la création ou l'édification, ce sont selon les mains de Dieu, le Créateur. C'est l'homme est l'homme et la femme est la femme. J'aime bien cela. L'homme est l'homme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer cela? La femme est la femme. C'est bien. Peu importe combien les gens se disputent, ils ne peuvent pas rendre les femmes en des hommes. Peu importe comment la mode change, ils ne peuvent pas rendre les hommes en femmes. Vous savez ce dont je parle. Il y a des hommes qui s'habillent comme des femmes et des femmes qui s'habillent comme des hommes. Je sais que Deutéronome 22:5, c'est important. Quand j'ai parlé de l'homosexualité, j'ai utilisé ce verset, que selon la parole de Dieu, l'homme ne devrait pas s'habiller comme les femmes et l'inverse aussi, parce que ça porte à la confusion. 2. Puisque la création de l'homme et la femme, ainsi que son objectif pour eux sont différents, la nature et la fonction des hommes et des femmes sont différentes. La nature de l'homme et la fonction de l'homme, c'est différent que la fonction et la nature de la femme. Personne ne peut nier ce fait ou le renverser. Dans la Bible, la romance entre l'homme et la femme est employée pour illustrer la romance divine. Vous savez, il y a la romance et la romance biblique. Utilement, c'est celui de l'homme et de Dieu, où Dieu est l'homme ultime et l'homme, c'est la femme ultime. Et ces versets que vous devez lire, je vous encourage vraiment de le faire. Dans notre version recouvrement, nous avons des renvois. Utilisez ces références, ces renvois. Et vous allez voir, vous allez trouver même encore plus de versets pour compléter l'image. Même aujourd'hui, j'ai regardé ces versets et j'aime beaucoup prier lire ces versets. Dans Ésaïe, ça dit « Votre Créateur est votre mari. » Dieu dit que votre Créateur, c'est votre mari. Donc, Israël, il dit à Israël, « Moi, je suis ton mari. » Il n'y a rien plus tendre que cela. Il n'a pas dit « Moi, je suis ton patron. » Il n'a pas dit « Moi, je suis ton créateur, ton sauveur ou ton maître. » Il a dit « Je suis ton mari. » Je vous dis, la romance divine n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Ça a commencé avec Israël dans l'Ancien Testament. Et quand vous lisez dans Jérémie, dans les jours des noces, dans le désert et sur le mont Sinaï. En fait, la loi que Moïse a donnée aux Israélites, c'était pas simplement une loi, mais en fait une lettre d'alliance. Et il a écrit pour fiancer. Il a parlé de l'alliance. Vous savez, le vœu. Aujourd'hui, quand vous donnez vos vœux, Dieu ne donne pas simplement un vœu, mais une alliance. Un vrai mariage entre deux personnes, c'est vraiment une alliance. C'est pas simplement une promesse, mais c'est une alliance. Une entente légale entre deux parties, entre hommes et femmes. Et on passe à Éphésiens, que Christ a aimé l'Église. Et dans Apocalypse, vous avez l'agneau qui a marié une mariée. Sûrement, c'est pas un agneau physique, mais l'agneau qui est Christ. Avec ses vainqueurs, comme sa mariée, et utilement dans la Bible, il y a l'esprit et la mariée, l'épouse. L'esprit est la consommation du Dieu trinitaire, passé par un processus. Et l'épouse, la mariée, c'est l'ultime l'élu régénéré, transformé et glorifié. Dans l'éternité, ils vont être un couple, l'homme et la femme. C'est ça l'histoire. L'histoire biblique entre l'homme et Dieu, c'est la romance divine. Donc, le mâle et la femelle, c'est une image. C'est une image de la réalité ultime entre Dieu et l'homme. L'épouse est l'objet de l'amour de l'époux. Deutéronome dit que après que l'homme est marié, il ne devrait pas aller dans la guerre pendant un an pour qu'il puisse prendre soin de sa femme pendant un an. L'amour de Dieu nécessite un objet. L'Église est devenue l'objet de l'amour de Dieu et elle reste toujours son objet. Ce n'est pas un amour parental, mais c'est un amour romantique entre l'homme et la femme. C'est ça son désir éternel, jusqu'à temps qu'il trouve l'Église. B. Dieu a un arrangement dans lequel il veut deux groupes, les hommes et les femmes, pour montrer comment lui et Christ sont la tête et comment les êtres humains devraient obéir. La mâle est la tête de la femelle, juste tout comme Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête de le mâle, et par extension, il est la tête de la mâle, du mâle et la femelle. En tant que femme, l'arrangement est en sorte que nous devrions obéir nos maris. La vie de l'Église, la vie chrétienne, c'est une question d'obéir notre mari dans toutes choses. Il parle, il a des désirs, il se déplace, il a une volonté. Nous tous comme son épouse. Notre travail, c'est d'obéir à Dieu. Comme il nous aime, il faut que nous l'obéissons. Et c'est ça, la vie chrétienne et la vie de l'Église. Dieu désire que les hommes accomplissent le rôle de lui-même et Christ. Et il désire, c'est son ordination. Il veut que l'homme porte le rôle de Christ. Et les femmes, l'Église. Et en fait, les femmes sont une image de toutes les humains. Il y a même des gens qui disent, c'est pas mankind, mais c'est peoplekind, c'est neutre. Pardon, c'est une expression en anglais. Leur tête, Christ. Nous devons tous, frères et sœurs, il faut que nous prenions ce rôle-là. Il faut que nous... Quelle protection d'avoir une tête comme ça. Le monde nous dit aujourd'hui que nous n'avons pas besoin d'autorité, de ne pas obéir notre tête. Ça, c'est oppressif. Soyez votre propre tête. Soyez indépendante. Ça, c'est la chose le plus dangereux de faire. Chaque instant, j'aime être protégé, être soumis à ma tête. Le moment où je sors de moi-même, je sors de ma protection, je suis dans le trouble. Je suis si sûr sous la tête. Chère sœur, c'est ça le point. Nous ne devrions pas introduire la pensée de l'égalité des hommes et des femmes par rapport à ce sujet. Il n'est pas une question de si les hommes et les femmes sont égaux. Plutôt, il est question de la fonction des hommes et des femmes devant Dieu. N'introduisez pas la pensée politique. Ne pensez même pas à cela. Ne soyez pas... amené dans cette direction-là. C'est quoi? Il est question de la fonction des hommes et des femmes devant Dieu. Pourquoi homme, pourquoi femme? Parce que Dieu a un besoin, Dieu a un désir de nous marier, d'avoir une contrepartie. Selon Dieu, les hommes et les femmes sont tous les deux des créatures rachetées sans aucune différence. Mais lorsque nous sommes avec les personnes, nous devons différencier entre les hommes et les femmes pour montrer le rôle de la tête et le rôle de ceux qui se soumettent. En fait, en Christ, dans le Seigneur, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'homme ni femme en Christ. Ceux qui sont baptisés en Christ, qui ont vêtu de Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ça, c'est l'autre côté de la chose. Mais aujourd'hui, l'Église est toujours dans la société humaine. Nous sommes ici comme un témoignage à la société. Et en tant que tel, il faut qu'il y ait une différence entre hommes et femmes. Pour qu'une réalité particulière puisse être témoignée. Il y a une tête et il y a ceux qui se soumettent. Encore une fois, je mets beaucoup d'emphase sur ce point. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu difficile à accepter. Peut-être que vous dites que je peux me soumettre à quelques frères, mais je ne peux pas me soumettre à mon mari. Il n'est pas digne d'être de ma soumission. Mais j'ai une parole, un conseil. Aux yeux du monde, la position des sœurs ou le rôle des sœurs, il y a une leçon. Plus tard dans les séquences des leçons, peut-être la leçon 20 ou 24, ça parle de la soumission des sœurs et la fonction des sœurs. Wow! Mon Dieu! Tu nous opprimes vraiment. Notre fonction, c'est de se soumettre. Et donc, la fonction des hommes, c'est d'oppresser, non? C'est d'opprimer, d'oppresser, non? C'est la conclusion que vous avez faite, c'est pas ma conclusion, et la Bible ne dit pas cela. Non. Et après, j'ai lu ça encore. La leçon 20 ou 24. J'ai commencé à voir, selon 1 Corinthiens 11, en parlant de la couverture de la tête. Ce n'est pas seulement la forme physique de la couverture, mais c'est... Il y a quelque chose de pesant en face de la société aujourd'hui et en face de l'ennemi, qu'il y a un besoin d'un témoignage puissant devant Dieu par rapport à la soumission. Le témoignage de l'Église est un témoignage de la soumission. Quand l'humanité est dans la rébellion contre Dieu, l'Église prend la position d'une femme et nous soumettons à Dieu. Jour après jour, l'Église locale donne ce témoignage-là que nous nous soumettons. Tout le monde peut se lever contre cela, mais nous nous soumettons. Quel témoignage! Même avant de faire aucun travail, même juste cette position de soumission, ça rend l'ennemi dans une position de peur. Les sœurs, quand vous vous mettez dans cette position-là, l'ennemi tremble. Moi, je prends cette position-là. C'est sûr qu'il faut que nous nous soumettons l'un à l'autre. Nous ne sommes pas dans la sphère, la réalité d'abus. Ça, c'est une autre chose. Moi, je parle du principe dans la parole de Dieu. 4. Cela est semblable aux acteurs qui sont des personnes ordinaires lorsqu'ils sont sortis de scène, mais qui jouent des caractères très spécifiques dans les rôles différents sur scène. Lorsqu'ils sont sur scène, il y a une sensation qu'ils sont différents en fonction, mais il n'y a aucune pensée d'inégalité. Je veux être sûr que je ne suis pas mal compris. Je vous demande, est-ce que Christ était, est-ce qu'il était égal à Dieu? Pourquoi vous ne répondez pas? Vous ne savez pas. Vous devriez savoir. Dans Philippiens, ça dit qu'il était égal à Dieu. Mais ça dit qu'il n'a pas... Il n'a pas pensé que cette égalité-là était quelque chose de spécial. Mais il est devenu un homme. Et il est mort, même d'une mort... d'un criminel à notre place. Il a accompli la rédemption pour nous, pour accomplir le but de Dieu. Voilà un exemple de Christ qui prend la position d'une femme devant Dieu. Et cette position-là a causé l'enfer de trembler. Ça a plu à Dieu tellement. Dans ce cas-là, il avait l'égalité, mais par son choix, il a choisi d'être soumis. Et donc Dieu l'a soulevé, l'a exalté, et lui a donné un homme qui est au-dessus de tout autre homme, et que chaque langue devrait confesser et chaque genou devrait être mis sur la terre pour louer et exalter celui qui a été humilié. Nous ne sommes pas ici pour réclamer ou prendre notre position jusqu'au trône. Non, il n'y a aucune raison. La soumission est le chemin au trône, chère sœur. Nous devrions considérer la soumission glorieuse au lieu d'une honte. C'est ce que le monde nous dit. Puisse Dieu montrer aux sœurs que leur soumission peut donner aux gens l'impression de l'autorité de la gloire de Dieu et Christ. Quand les autres viennent dans la vie d'Église, ils vont voir une scène différente. Une scène différente que dans le monde. Ils vont toucher immédiatement l'autorité divine. Moi, j'ai grandi dans l'Église comme un enfant de l'Église et j'ai regardé les sœurs quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans l'école secondaire. J'ai regardé les sœurs plus aînées. Ils étaient capables, vraiment, beaucoup de capacités, ils étaient intelligentes. Mais je les ai vus selon la parole, ils ont pris la position de la soumission. Ça, c'était la chose la plus convaincante, que ces personnes-là sont différentes, que Dieu est là, que le trône est là. C'est vraiment différent du monde. Même depuis un âge très jeune, j'avais cette impression que l'Église était vraiment une place différente. Aujourd'hui, les sœurs, vous avez un rôle à jouer dans ce témoignage-là de l'Église. En étant quelqu'un qui est soumis à Dieu, je sais que le temps file, il y a beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'ancienne création. Il y a toujours la distinction entre les hommes et les femmes dans l'Église. À cause de la différence, il devrait y avoir une frontière. Ne neutralisez pas cette frontière-là. La frontière doit être claire, sinon nous n'allons pas être protégés et préservés. D'un côté, en Christ, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. De l'autre côté, bien que nous soyons l'unique nouvel homme, dans la vie de l'Église, les différences entre les hommes et les femmes sont toujours présentes. Il y a des chrétiens dans le passé, même aujourd'hui, la Bible dit ni homme ni femme, il n'y a aucune distinction. Nous pouvons vivre ensemble. Ça a été comme ça en Chine dans le passé. Il y avait beaucoup de confusion et beaucoup de scandales dus à l'immoralité. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, chères sœurs, nous sommes dans la chair, nous vivons dans la chair. Nous sommes toujours dans l'ancienne création. Il faut garder les frontières entre l'homme et la femme. Nous avons un esprit, mais nous avons aussi la chair. De ce fait, nous devons garder la ligne séparatrice entre les hommes et les femmes dans notre communauté et aussi dans notre vie d'Église. Ah, les sœurs ne devraient pas oublier qu'elles sont des femmes lorsqu'elles contactent les autres. Elles ne sont pas libres de parler sans précaution. Sinon, leur contact avec les gens les amènera beaucoup de problèmes. Il y a des sœurs qui parlent comme des frères, qui agissent comme des frères. Le mot, c'est la modestie. Même le visage de honte, ça, c'est votre protection. Vous devriez pas être si libre pour vous exprimer comme des hommes. Il n'est pas juste de parler avec quelqu'un d'un sexe opposé lorsque nous sommes tout seuls dans la salle. une troisième personne doit être présente. Cela n'est pas simplement une vertu, mais aussi une grande protection. Je peux témoigner que j'étais sous notre frère Lee. La première parole de notre frère Lee, c'est que il m'a dit, il faut faire attention parce que il va avoir beaucoup de circonstances où vous allez contacter les sœurs. Et il faut faire vraiment attention à cette ligne de ne pas être seul avec une sœur dans une salle fermée. Billy Graham, il vient de décéder. Peu importe que les autres disent, c'est une question. Il y a le frère Billy Graham, il, dans tout son ministère, il a été libre de tous les scandales. Ça, c'est pas une chose, une petite chose. Dans le christianisme, et même dans le christianisme contemporain aujourd'hui. Je respecte notre vice-président Mike Pence. Il est un vrai frère et un cher croyant. Il a fait très clair que qu'il ne mangerait ou il mangerait pas avec une autre femme toute seule ou sans dans la présence de sa femme. Aux yeux des autres ou dans le monde, c'est un peu ridiculeux. Mais je respecte beaucoup cela. Il n'est pas juste de parler avec... Alors que nous vivions sur cette terre, dans notre chair, vous ne pouvez jamais penser que la limite entre hommes et les femmes peut être abolie. Cela n'est pas vrai. Je vais m'arrêter ici. Peut-être qu'on peut prier en deux et en trois. Et les frères vont nous diriger. Juste une petite prière avec votre voisin. Amen.